Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Richard Martineau.
Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale.
Je suis fasciné par cette histoire-là. J'avais entendu quand j'étais jeune, j'entendais ça, qu'il y avait des expériences qui avaient été faites à l'Université McGill. Un psychiatre avait administré des doses massives de LSD à ses patients sans que les patients le sachent, etc. Puis moi, je me disais, théorie du complot, là, c'est un peu tiré par les cheveux. Mais Christy, c'est vrai. Et là, si vous voulez en savoir plus, moi, je trouve que c'est une histoire incroyable, cette histoire-là. Et il y a enfin un livre là-dessus. Sophie André-Blondin, un peu besoin de présentation, vous la connaissez bien, elle est animatrice, journaliste à Radio-Canada depuis de nombreuses années. Elle anime l'émission scientifique Les Années-Lumière, justement, à Radio-Canada. Avec Lisa Ellenwood, ils ont publié Les Cobayes oubliés aux éditions Édito. Sur cette histoire-là, Sophie André-Blondin s'est déplacée en studio. Merci.
Ben, ça fait plaisir d'être là.
OK, la première fois que tu as entendu parler de cette histoire-là.
Ben moi aussi, c'était quand j'étais jeune. Et puis, un vague ami de la famille disait qu'il avait reçu du LSD à son insu à l'hôpital psychiatrique. Et je me disais, bon, c'est un vieux hippie. J'avais vraiment classé ça du côté du complot. J'avais
ben
vu
oui.
ce programme qui s'appelle MK Ultra, donc financé par la CIA américaine. Je l'ai vu apparaître dans certaines publications, certains films, de la fiction. Ça a été récupéré. Stranger Things en a récupéré aussi. Mais je n'avais pas réalisé à quel point tout ça était ancré dans la réalité jusqu'à ce qu'on me demande d'adapter un balado de CBC anglais sur, qui s'appelait Brainwashed sur le lavage de cerveau. C'était le but des expérimentations ici à Montréal. Et là, en faisant l'adaptation en français, en fouillant un peu pour ajouter des entrevues en français, j'ai réalisé, mais c'est vrai. Non seulement c'est vrai, mais ça témoigne d'un moment de l'histoire des sciences que je ne soupçonnais pas. Donc, ça rejoignait tout d'un coup mon nouveau métier, ma nouvelle
ben
identité.
Oui. Ouais. Mais écoute, c'était vraiment la CIA qui administrait ce programme-là?
Ben, en fait, la CIA se cachait derrière plusieurs sociétés écrans pour financer partout, beaucoup aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde, 149 projets au total qui ont été trouvés. Donc, c'était pas directement la CIA qui signait les chèques de Ewan Cameron, le psychiatre qui menait ces expériences-là à McGill. C'était derrière une société écran qui finançait des recherches scientifiques. Et la CIA a effectivement, pendant plusieurs années, offert des dizaines de milliers de dollars pour cette recherche-là. Mais la CIA n'était pas la seule. C'est-à-dire que ce psychiatre-là exerçait de façon tout à fait ouverte. Okay. Il en parlait dans les médias.
Il ne savait pas, lui, qui était instrumentalisé par...
On n'a rien trouvé qui montre que Ewan Cameron savait que derrière la société écran qu'il finançait, il y avait la CIA américaine.
Lui faisait des recherches parce que, justement, sur comment guérir des traumas, des trucs comme ça.
C'est ça, il était psychiatre, c'était le top psychiatre. Le président de l'Association canadienne des psychiatres, américaine des psychiatres, le fondateur de l'Association mondiale des psychiatres. Si on voulait être bien soigné à Montréal, c'est Ewan Cameron qu'on allait voir. Il était assez avant-gardiste, beaucoup trop ambitieux, donc peu regardant sur les aspects éthiques, qui n'étaient pas aussi encadrés que maintenant. Il faut reculer à l'époque. On était dans les années 50-60.
Ouais.
On n'a pas les molécules qu'on a maintenant pour guérir l'esprit. On enferme les gens quand ils sont malades pour les tenir loin de la société, pour protéger la société autant que pour les protéger eux-mêmes. Et lui a la probablement légitime ambition de guérir ces gens-là. Et il se dit, ça va pas assez vite avec la psychothérapie. Je vais essayer des méthodes. Alors, il pige un peu partout. Les électrochocs, ben, on va y aller plus fort encore. On va y aller des doses plus fortes. Tout ce qu'il y a de barbiturique et de drogue, ben, on va y aller avec des cocktails assez impressionnants. On va forcer le sommeil. On va donner du LSD, une molécule, bon,
Mais c'est-tu un savant fou ou quoi?
C'est quelqu'un qui était rigoureux? Non, en fait, il a manqué de rigueur. Et ça, même des collègues à lui, Donald Hebb, entre autres, qui est un psychologue de McGill renommé, qui lui aussi a mené des expériences qui ont fait un peu le chemin vers les connaissances qu'on a ou pas sur le lavage de cerveau, considérait que son collègue avait vraiment erré, qu'il était presque criminellement dangereux avec son peu de regard pour ses patients. Il n'a pas demandé la permission à ses patients, il les a traités comme des cobayes.
C'est fou, ça.
Et ses traitements, avec les électrochocs, le LSD, il leur jouait des messages en boucle aussi. Il voulait effacer leur esprit avec tout ça, avec le LSD, les électrochocs, les retourner à l'état de poupon pour pouvoir imprimer un esprit sain. Donc, l'idée de base, c'est bon. On efface l'esprit, puis on met un bel esprit sain, qu'il n'y a pas de problème.
Mais la CIA, elle disait, hey, ces recherches-là, c'est intéressant parce que ça peut nous... On peut créer des agents secrets. Là.
Exactement, on peut laver des cerveaux.
C'est ça.
C'est l'obsession. On était sûr que les ennemis, les Chinois, les Soviétiques, avaient... trouver la façon de laver les esprits.
Le film de Manchurian Candidate, c'est exactement ça.
Oui, on en mentionne dans le livre aussi, parce que ça a inspiré, entre autres, des gens qui ont dû faire les recherches. Parce qu'avant de trouver que la CIA finançait ça, ça a pris beaucoup de recherches. Puis c'est ce qu'on a trouvé intéressant de raconter aussi. C'est pas seulement les horreurs et les patients. Bien sûr, on raconte tout ça, mais on voit avant pourquoi on avait si peur, pourquoi on voulait tant chercher des recettes pour laver l'esprit. Comment est-ce que ça se passait? Et qui a réussi à trouver le fin mot de l'histoire là-dedans? Alors, on a plein de personnages dans ce livre-là qui racontent ça.
Aujourd'hui, ce gars-là serait poursuivi là, pour des gonzillions de dollars. Est-ce qu'il y a eu des impacts sur la vie de ces cobayes? Est-ce que des gens ont souffert de ces expériences?
Mais là, vous parlez au passé, Richard, alors que c'est encore au présent. Il y a encore des familles qui souffrent de ça. Il y a encore des familles qui sont dans des recours collectifs, des actions collectives pour obtenir réparation. Parce que le tort qu'on a fait, c'était beaucoup des femmes. C'était probablement femmes qui souffraient de ce qu'on appellerait aujourd'hui, mais qu'on n'appelait pas à l'époque parce que ça ne faisait pas partie des diagnostics, le postpartum. Ce sont donc des femmes qui sont entrées là et qui sont sorties un peu, en fait, pire qu'elles étaient, plus mélangées, des pertes de mémoire importantes, donc une incapacité à s'occuper de leur famille, des hommes aussi. On parle de certaines histoires des hommes d'affaires qui étaient assez... tout allait bien, mais bon, après les traitements, incapables de reprendre leur travail, perdre leur entreprise. Donc, des familles qui ont été brisées, déchirées par ça, atomisées parce que quand les mères, par exemple, revenaient dans leur famille, ne pouvaient pas s'occuper de leurs enfants. Donc, les familles ont subi un tort qui s'est transmis un peu de génération à l'autre. C'est pas une question de génétique et d'ADN, mais la souffrance, la maltraitance, les épisodes comme ceux-là, ben, ça se transmet de génération en génération. Ce qui fait qu'il y a certaines familles qui sont encore devant la justice pour obtenir réparation. Parce que on parle de CIA, là, mais vous savez que le gouvernement canadien finançait aussi les travaux de Ewan Cameron. Là. Il n'y avait pas seulement la CIA. Le gouvernement canadien ne m'a jamais reconnu un tort là-dedans.
Mais les finançait pour des fins militaires? Ou...
En fait, il y avait parmi les premiers travaux, oui, des militaires derrière, les bailleurs de fonds militaires canadiens, mais sinon, le gouvernement canadien faisait partie, parce que c'était l'Université McGill, c'était le Allen Memorial Institute ici, un hôpital psychiatrique avant-gardiste. Donc, c'était en partie financé par nos
Quelle histoire incroyable!
Ça va jusqu'à Guantanamo. Tout ça a été récupéré pour torturer les prisonniers de Guantanamo. Ça a été continué jusqu'au Manitoba par un autre psychologue qui a continué à faire des travaux sur la privation sensorielle. Si je vous prive de tout, là, pas de son, pas d'image, absolument rien.
Qu'est-ce que ça va
combien
faire?
Combien de temps vous allez durer?
Les médecins nazis faisaient là, avec les gens des camps de concentration, les plongeaient dans des bains d'eau froide pour savoir que ça prenait combien de temps avant qu'ils meurent.
Et pourtant, Ewan Cameron est allé évaluer Rudolf Hess au procès de Nuremberg. Il a évalué un des accusés au premier procès de Nuremberg.
Et c'est toute la question que le livre pose aussi en partant de cette histoire-là, c'est jusqu'où on peut aller au nom de la science?
Oui.
C'est ça?
Mais en fait, jusqu'où on peut aller et pourquoi certains dérivent? Parce que bien sûr, il y a ce psychiatre Ewan Cameron. C'est facile de dire c'est un monstre épouvantable et puis on le prend comme un loup solitaire puis on l'accuse puis on dit c'est épouvantable, mais c'est quand même une digression qui n'avait pas raison d'être. Mais tout ça, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il y a un fil rouge derrière tout ça et que derrière ça, il y a des contextes qui font que certains vont digresser. Et il n'est pas le seul. Il y a eu des psychologues qui ont contribué avec, entre autres, les forces américaines à Guantanamo qui sont pas piqués des verres dans leurs dérives.
Moi, je ris souvent des complotistes, mais les complotistes, des fois, ça part d'une réalité. Là, quand ils disent le Big Pharma, puis la CIA, puis tout ça, puis t'es là, arrête, là. Mais tu sais, sauf que c'est vrai qu'il y a eu des expériences à l'insu des gens.
Oui, c'est vrai. Et c'est ce qui... En fait, je commence à recevoir des courriels de gens pour qui ça va pas bien en ce moment. Mais l'idée, c'est de bien comprendre. Moi, c'est de rétablir. Vous savez, bon, je suis journaliste scientifique dans la vie. J'aime bien que les choses soient bien assises. Alors, qu'est-ce qu'on sait qui est vrai dans tout ça? C'est ça qu'on a voulu aller chercher. Et qui sont les personnes qui ont été les protagonistes depuis le début de cette histoire-là et encore aujourd'hui?
Là, c'est important que ce livre-là. D'ailleurs, je parlais tantôt à ma collègue Stéphanie Villeneuve, qui est plus jeune que moi, puis elle n'en avait pas entendu parler. Puis c'est bien que, tu sais, parce que moi, ça roulait cette histoire-là, mais il y a toute une génération qui ne connaissent pas ça. Là.
Mais c'est ici, là, c'est à 1,2 km d'ici,
c'est
les
fou.
City Allen Memorial.
Non, mais Sophie-André Blondin, j'ai une mission pour toi, il faut qu'il y ait un film.
Il y a déjà eu des films de fiction.
Il y a eu des films de fiction, mais je veux un film collé sur la réalité, là, vraiment ce qui s'est passé là-dessus pour qu'on puisse voir ça, parce que je trouve que c'est une histoire hallucinante. Ça s'appelle « Les cobayes oubliés ». Il faut absolument lire ça. Sophie-André Blondin, journaliste à Radio-Canada, et Lisa Ellenwood.
Ma collègue de Fifth Estate, oui.
Merci beaucoup. Merci.
Au revoir. Bye.
C'est tout le temps qu'il me reste à l'émission. Merci énormément à l'équipe fantastique avec qui j'ai le privilège de travailler. Florence Lamoureux, Marianne Bessette à la recherche. Merci beaucoup. Jean-François Roy, Tristan Brunet-Dupont. On se reparle au prochain épisode.